Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La conférence des évêques de France est réunie à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine pour son assemblée de printemps. Au programme des discussions, des questions écologiques, mais aussi et surtout le vote de résolution pour lutter contre la pédocriminalité dans l'Église française. Sujet ô combien sensible et douloureux pour les victimes, dont le nombre s'annonce effrayant. Depuis des années, des associations luttent contre le silence au fil d'affaires parfois très médiatisées. Après des années de discrétion, voire de déni, l'Église semble donc désormais vouloir réagir. Comment l'Église française doit-elle répondre aux victimes de pédophilie? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui par téléphone. Distanciation oblige. Sœur Véronique Margron, bonjour.
Bonsoir à vous.
Vous êtes présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, théologienne et auteure du livre « Un moment de vérité » aux éditions Albin Michel. Et aussi Christine Pedotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la revue « Témoignages chrétiens », auteure de nombreux essais, donc « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» C'est paru aux éditions Albin Michel également. Et enfin François Deveau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association La Parole Libérée, association bien connue, puisqu'elle a été en première ligne dans l'affaire Prena, puis l'affaire Barbarin dans le diocèse de Lyon. Vous avez dirigé avec votre association un livre blanc, Marianne, n'entends-tu pas tes enfants pleurer? C'est sorti le 18 mars aux éditions du CERF, un livre d'information et de lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs. Sœur Véronique Margron, qu'attendez-vous de cette assemblée de printemps? Est-ce que c'est un moment de vérité?
Je ne sais pas, ce sont les évêques qui pourront le dire, j'espère. J'attends simplement qu'ils puissent signifier la manière dont ils peuvent honorer la responsabilité qui est la nôtre dans l'Église, en particulier toutes celles et tous ceux qui portent une responsabilité devant les crimes qui ont été commis et devant l'ampleur des douleurs et des conséquences de ces crimes sur des vies bouleversées, fracassées, de temps et temps de personnes victimes. Donc voilà, c'est cela que j'attends, en prévision en quelque sorte, ou plutôt en préparation de la réception du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui rendra son rapport en septembre.
Alors on va en reparler évidemment, mais Christine Pedotti, sur cette même thématique, est-ce qu'il y a un vrai changement, une vraie prise de conscience? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que c'est aussi peut-être, et j'ajoute cette suggestion, est-ce que c'est aussi peut-être à la demande des fidèles?
Alors, vous savez, ces crimes de pédophilie dans l'Église, au fond, quand on y regarde de près, ils fonctionnent un peu comme l'inceste dans les familles, hein. Il y a une figure d'autorité, qu'on appelle d'ailleurs le père, le prêtre. Il y a une figure silencieuse, la mère, Église, qui s'aveugle, qui ne veut pas savoir. Puis d'une certaine façon, il faut aussi qu'on prenne nous nos responsabilités, les frères et sœurs de l'Église, les catholiques, qui n'avons pas voulu savoir, pas voulu dire. Mais comme souvent dans les familles, c'est du côté des baptisés ordinaires. François Deveau le sait aussi, et comme Véronique Margron, qu'il y a eu une sorte de réveil, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on appelle dans l'Église le peuple a dit « ça suffit, il faut faire la vérité ». Alors voilà, cette pression, elle continue à exister, les associations y contribuent, il y a beaucoup de gens qui veulent que les choses avancent, mais il faut être honnête et dire aussi qu'il y a un certain nombre de responsables dans l'Église qui voudraient bien que ce moment passe et qu'on passe à autre chose.
François Deveau, vous avez déjà dit par le passé que vous ne croyez plus en la bonne intention de l'Église. Est-ce que ce mouvement qu'on observe vous redonne un petit peu d'espoir ?
Pour l'instant, je crois que c'est trop tôt pour le dire. Il faut attendre de voir ce qui va être dit. Une chose est sûre, c'est que l'enjeu de la réparation des victimes est certes capital sur un plan humain, sur un plan moral, sur un plan évangélique, enfin sur tout ce qu'on veut. Mais si l'enjeu est la réparation des victimes, l'enjeu est aussi la réparation de l'Église. Et la confiance qu'on pourra lui accorder à l'avenir, Si on bâcle, si l'Église bâcle le travail de la réparation des victimes, il n'y aura pas de réparation possible de l'Église. Les violences sexuelles sur mineurs commises au sein de l'Église catholique sont sans doute l'ultime trahison de l'Évangile. C'est suffisamment rappelé dans l'Évangile combien est sacré l'enfant. Et il y a des allusions très précises qui sont faites à la trahison, et on a tous connaissance de l'histoire de Judas, où il y a un parallèle sur cette trahison qui est assez clair. Et c'est en ça que, si vous voulez, la réparation des victimes, l'enjeu de la réparation, c'est tout le message de l'Évangile qui est remis en question. Et c'est cette charge qui pèse aujourd'hui sur les évêques et même sur le pape, puisqu'il est mis en évidence que ces violences sexuelles sur mineurs sont d'ordre systémique et qu'aucune frontière les arrête. Mmh. Et qu'elles sont vraisemblablement dans des dissonances et dans des proportions qui sont pas comparables avec d'autres institutions, de ce qu'on en sait pour l'instant.
Sœur Véronique Margron, vous en parliez parallèlement à cette assemblée. Il y a la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. Elle doit, vous le disiez, rendre ses conclusions dans 6 mois, mais son président a fait un point d'étape en début de ce mois. Le nombre des victimes est estimé à au moins 10 000 depuis 70 ans. C'est vertigineux, non ?
Le nombre est toujours vertigineux, quel qu'il soit, puisqu'il indique, ce que disait François De Vaud, il indique une trahison fondamentale, qui est la trahison des plus vulnérables, la trahison de l'Évangile qui est là pour les protéger et les défendre. Il indique qu'une institution qui est là pour annoncer de la vie, hein, en tout cas pour les chrétiens, pour la chrétienne que je suis, apporter de la mort. Donc, quel que soit le nombre, ce nombre sera effroyable. Et voilà, le chiffre avancé à la suite de la conférence de presse de M. Sauvé est effroyable. On ne sait pas s'il est la réalité, s'il est encore en deçà de la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, nul n'est capable de le dire, mais sinon de dire qu'en effet, ces abus et ces agressions sexuelles et ces viols ont un caractère systémique, qu'un certain nombre d'agresseurs auront commis des dizaines et des dizaines de crimes, auront sévi pendant des décennies, et les frontières les ont plutôt protégées, au contraire, qu'arrêtées. Donc c'est face à cela que nous sommes. Donc nous sommes face à cette sorte d'effroi, en quelque sorte, de comment tout ce mal a pu être commis, comment il a pu être dénié, comment on a pu le minimiser, comment on a pu même le contester, comment on a pu ne pas écouter les victimes, leurs proches. Donc, quel qu'il soit, il sera effroyable.
Je vais vous demander de réagir sur ce que disait François De Vaud. Est-ce que l'existence même de l'Église de France, sa raison d'être, est en danger sur ce dossier ?
Je ne sais pas. À vrai dire, je ne me pose pas la question comme ça. Ce qui est en jeu, c'est la justesse. Ce qui est en jeu, c'est la vérité. Ce qui est en jeu, c'est de pouvoir signifier ce qui a été commis de mal contre des personnes, contre des enfants, contre des adultes en vulnérabilité. Donc, l'Église est en danger si elle reste dans le mensonge et le déni, oui, parce qu'elle est en danger par rapport à ce qui fait son fondement éthique. Son fondement spirituel aussi, mais son fondement éthique, à ce qui justifie qu'elle prenne la parole sur les questions éthiques ou morales. Donc là, oui, elle est en danger et elle serait en danger si elle ne fait pas la vérité et si elle ne la reconnaît pas et si elle ne tente pas de réparer l'irréparable du mal subi par les personnes victimes.
On va terminer sur ce thème avec l'avis de Christine Pedotti. Est-ce que je vous repose la question aussi bien à vous, est-ce que l'existence même de l'Église est menacée par toutes ces affaires ?
Bah, le cœur de l'Église, c'est la foi, c'est la confiance. Donc effectivement, quand tout à coup ceux qui sont là pour énoncer la foi, la transmettre, la dire, la protéger, sont ceux à qui on ne peut plus faire confiance, c'est le cœur même du système qui est mis en cause. Et donc, l'Église catholique en tant que telle, dans son système, quand en fait ce sont les serviteurs de la foi en qui on perd confiance, elle est effectivement en danger.
François Deveau, il y a quatre volets, quatre groupes de travail au sein de la conférence des évêques de France. D'abord, le volet mémoriel avec d'éventuels lieux de mémoire pour les victimes ou des monuments. Il y a déjà des choses qui se sont faites en Vendée, notamment à Luçon. Pour se souvenir, et c'est tout l'objet de votre association, il faut d'abord reconnaître les faits, c'est déjà le premier pas.
Oui, c'est sûr. Je crois que tous ces sujets sont extrêmement complexes. Et le seul sujet de la réparation est un sujet qui est extrêmement complexe. La conférence des évêques de France nous dit travailler sur ces sujets-là depuis 2001, depuis l'affaire Piquant. Et c'est à cette date qu'elle a commencé à éditer son livre « Lutter contre la pédophilie ». Et donc elle prétend travailler efficacement sur ces sujets-là, et force est de constater qu'on n'est pas au rendez-vous, elle ne respecte même pas les propres engagements qu'elle a elle-même pris par le passé, consécutivement à cette lutte contre la pédophilie. Donc, vraisemblablement, les réponses qu'ils ont apportées jusqu'à maintenant ne sont pas les bonnes. On a effectivement la chance d'avoir une commission qui est exemplaire, et je crois qu'on est tous d'accord pour le dire.
Vous parlez de la CIAZ, là, de la commission la CIAZ, indépendante. Oui.
Qui fait un travail exceptionnel, qui fait un travail transversal, et on ne le dira jamais assez, ils n'ont reculé devant aucun sujet, et l'exhaustivité de leurs travaux est exemplaire, avec une compétence qui est vraiment impressionnante. Et donc je crois qu'il est urgent d'attendre ces conseils, qui sont très pertinents et très judicieux, sur des questions qui sont extrêmement complexes, et que ces conseils-là, il va falloir, ces recommandations, il va falloir que les évêques les accueillent avec une très grande humilité. Parce que la seule question de la réparation est effectivement une question très complexe. On a quelques modèles dans notre humanité de tentatives de réparation sur des crimes de masse, comme celui-ci, et on voit bien que la réparation est très longue à venir, qu'elle s'étale sur plusieurs décennies, plusieurs générations, et qu'effectivement, il y a la question de la réparation financière. Est-ce qu'elle doit être individuelle? Est-ce qu'elle doit être forfaitaire? Quel nom elle doit porter? Le grand débat qu'ils ont mené lors de la dernière réunion plénière.
Ah, on a... Ah oui, on vous a retrouvé. Pardon, allez-y, continuez.
Ouais, pardon. Et donc, cette question de la réparation est évidemment très complexe. Il y a la question de la réparation spirituelle. Alors, elle ne concerne pas toutes les victimes, mais pour autant, c'est pas parce qu'elle ne concerne pas toutes les victimes qu'elle doit être écartée. Si elle est financière, est-ce que on voit bien, par exemple, la réparation chez les anglo-saxons sur un plan purement républicain n'est pas du tout à la mesure de ce qu'on fait en Europe et en France. Voilà, donc ces questions-là sont très très complexes, et donc il y a des personnes qui ont travaillé dessus et qui ont très bien travaillé dessus et qui se sont pondérer un petit peu les positions des uns et des autres, celles des évêques, celles des victimes, celles des médias, et qui vont émettre un avis qu'on peut sur lequel on peut capitaliser une certaine confiance. Et je pense que, au vu de la méprise qui a été celle des évêques jusqu'à maintenant, il est urgent d'attendre et d'écouter ce qui va être dit par cette commission.
Sœur Véronique Margron, vous le disiez aussi, hein, il faut attendre ce qui va se passer dans 6 mois avec les conclusions de la commission indépendante. Mais alors pourquoi, à ce moment-là, les évêques se réunissent et qu'est-ce qu'ils vont voter comme résolution ?
Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont voter comme résolution, mais si vous voulez, autant il est indispensable d'attendre les préconisations de la CIAS, autant il est aussi indispensable de se préparer à recevoir, au sens très actif du terme, hein, ce rapport et les préconisations pour ensuite prendre les décisions qui s'imposeront. Et donc, se préparer, ça passe par cette assemblée pour les évêques, puis par la nôtre pour la COREF, pour que vraiment nos troupes, si je peux me permettre, soient les plus mobilisées, les plus averties, les plus conscientes des enjeux. Donc après, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais pour moi, c'est dans ce registre-là. C'est-à-dire, il s'agit plus d'entrer dans un processus, en tout cas, c'est mon avis, d'entrer dans un processus pour recevoir ce rapport comme il conviendra éminemment gravement de le recevoir, et en tirer toutes les conséquences. Et ça, ça ne se fait pas simplement de façon passive, ça doit se faire de façon active, cette attente.
Christine Pedotti, donc il y a la reconnaissance et l'aspect mémoriel. Il y a aussi, et c'est plus surprenant hein, quand j'ai un peu étudié ça, il y a parmi les quatre ateliers sur lesquels les évêques travaillent, il y a l'accompagnement des auteurs d'agression. Ça veut dire quoi ?
Finalement, ça n'est pas complètement illégitime, après tout. Vous savez, un des grands métiers de l'Église, c'est de s'occuper du péché, et des pécheurs. Donc, ça ne serait pas normal qu'ils ne s'occupent pas de ceux qui sont coupables. Ce sont les prêtres. Alors, c'est vrai que ça nous met un tout petit peu en situation de réticence, parce qu'on sait par le passé que très souvent, l'attention a été portée d'abord sur les prêtres avant d'être portée sur les victimes. Mais en même temps, raisonnablement, ça fait partie du travail qui doit être fait. Mais je vais quand même dire une chose un tout petit peu dissonante dans ce qu'on dit là, c'est que les évêques, ils ne sont pas tous unanimes. La commission sauvée, la CIAZ, elle a été obtenue pas du tout dans un vote unanime. Donc il n'y a pas de consensus parmi les évêques. Donc ce qu'ils font aussi en se réunissant et en réfléchissant ensemble, c'est que il y a ceux qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose de décisif, qui essaient de convaincre ceux qui se disent que ça n'est qu'un mauvais moment à passer et que voilà, on va faire des petites choses ou des choses symboliques et puis on passera à autre chose. Et moi je sais que aujourd'hui, au sein des évêques, un certain nombre se disent, on en a déjà beaucoup parlé de cette affaire-là, et il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, ça existe, et le débat, il a lieu en ce moment dans la conférence des évêques, et ça, on le sait.
Oui, François Deveau, j'imagine qu'avec la parole libérée, vous n'êtes pas du tout prêt à passer à autre chose, et j'insiste, accompagner les auteurs d'agression, quand vous lisez, quand vous entendez ça, ça vous fait quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit condamné pénalement avant, qu'il soit reconnu comme auteur d'agression ? Comment vous l'abordez ?
Je crois que la prise en charge des auteurs n'est pas une question à écarter. Hein. Je crois qu'elle est inhérente à la prise en charge des victimes et qu'il ne faut pas minimiser ce sujet-là, qu'il soit dans l'Église aussi bien que dans la société républicaine. Mais c'est vrai, je rejoins assez bien l'avis de Christine Pedotti. Le sujet ne semble pas faire consensus, toujours pas faire consensus au sein des évêques. Vincent Némon disait à l'AFP, je crois hier...
C'est le porte-parole de la conférence des évêques de France, hein. Des porte-paroles.
Qui disait que voilà, allait pouvoir être pris les premières décisions et que les décisions qui seront prises permettront de pas y revenir. Mais c'est faire fi de justement l'expertise de cette commission. Donc ça démontre un petit peu, si vous voulez, à quel point ils sont pas dans le mode, ils sont pas à la hauteur et ils sont pas prêts à recevoir efficacement les conseils qui vont leur être portés et pourtant qui semblent d'une grande pertinence.
Sœur Véronique Margron, comment est-ce que l'Église va déterminer qui est agresseur, qui ne l'est pas ? Est-ce qu'il faut une condamnation au pénal, parce que c'est un crime, hein, un crime sexuel ? Est-ce qu'il faut un procès canonique, c'est-à-dire au sein de l'Église, où on lave un peu son linge sale en famille ? Comment on va prendre en charge ces agresseurs si on doit les accompagner ?
Alors c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que les agresseurs, en effet, où ils sont pénalement poursuivis, et autant, toutes les fois que c'est possible, bien évidemment, il faut le faire. et quand il faut aussi les poursuivre canoniquement, quand ils peuvent être poursuivis canoniquement, c'est-à-dire à l'intérieur d'une sorte de discipline ecclésiastique, si vous voulez, hein, comme il y en a dans bien d'autres corps.
C'est la justice interne à l'Église, hein, le droit canonique. Voilà,
oui,
c'est
oui.
Ça, voilà.
Donc, il faut le faire aussi, mais l'une n'empêche évidemment pas l'autre. Mais le drame aussi, c'est qu'il y a bien sûr de nombreux agresseurs pour lesquels tout ça n'est plus possible, tout simplement parce que d'un point de vue et canonique et du côté de la justice de notre pays, les faits sont prescrits, plus rien ne peut être poursuivi. Il y a aussi des agresseurs qui sont morts et derrière, il y a beaucoup, beaucoup de victimes de ces hommes-là. Donc il faut pouvoir nommer ou en tout cas reconnaître les abus commis et les abus subis par toutes ces victimes, les agressions subies par toutes ces victimes qui ne peuvent pas se retourner vers la justice au sens premier du terme, pour qu'à ces personnes, il soit fait justice, à défaut de pouvoir dérouler la justice, mais qu'il soit fait justice en faisant autant que faire se peut, et c'est un des travaux énormes de la science, qu'autant que faire se peut, la vérité soit faite. Donc c'est d'abord cela qui est en jeu. Après, le suivi des auteurs, comme le disait François Deveau, Christine Pedotti, enfin, c'est une obligation de voir comment faire pour les suivre au mieux, que ce soit après une période de détention ou après un procès, voilà, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, non pas pour les accompagner gentiment, mais tout simplement pour les suivre, afin que, autant que faire se peut, autant que l'Église en ait les moyens, ils ne puissent pas évidemment réitérer leurs méfaits, afin de tenter autant qu'il est possible eh bien de les aider psychologiquement, psychiatriquement, donc autant de choses qui sont qui relèvent du devoir, quoi, vraiment, comme en effet pour n'importe quelle autre institution, et sans imaginer que l'Église saurait faire cela de prime abord. Enfin, elle ne le fera pas sans soutien professionnel, c'est-à-dire sans les psychiatres nécessaires, sans tout l'environnement qu'on pourrait qualifier de psychojudiciaire qui existe par ailleurs.
François Deveau, quatrième groupe de travail, quatrième axe qui est étudié par la Conférence des évêques de France. La prévention, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne se reproduise plus jamais? Il y a des recommandations de la science.
Alors,
déjà pour là-dessus.
Ça rejoint un petit peu ce que je voulais vous dire en poursuivant les propos de Madame Margron. La justice canonique, pourquoi pas, elle a un fonctionnement qui est propre et qui peut être pertinent et qui permet de poser un jugement sur des clercs. Pourquoi pas? Mais quand on met en place un système et quand on l'appelle justice, il doit répondre à des notions qui sont élémentaires, qui sont assez basiques en termes d'impartialité, en termes d'équilibre, en termes de débats contradictoires. On a quand même des modèles dans notre société sur lesquels on peut capitaliser et pour réformer ce qui doit l'être. Il faut bien comprendre que dans la justice canonique, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. C'est-à-dire que l'évêque est omniprésent, il centralise tous les pouvoirs. Rien que là déjà, quand vous avez un évêque qui incarne ce qu'on pourrait comparer à un procureur de la République, qui est en même temps le juge, qui est en même temps le père spirituel, qui est en même temps le représentant du Christ dans son diocèse, on commence à mélanger un peu les gens et prétendre qu'on fait œuvre de justice dans ce contexte-là n'est pas correct. Et dans le droit canon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réformées. Donc pour répondre à votre question, pour garantir, et effectivement c'est un point qui touche aussi la réparation, parce que c'est aussi ce que demandent les victimes, et c'est pour ça qu'elles ont parlé, en tout cas dans une bonne proportion. C'est pour que demain des enfants ne vivent pas ce qu'eux-mêmes ont vécu. C'est ce que moi m'anime personnellement. Effectivement, on attend de cette institution qu'elle mette en place les réformes, qu'elle se rééquilibre, afin de garantir que son fonctionnement soit sain et serein, et que les dysfonctionnements systémiques qu'on a pu constater dans le monde entier ne se reproduisent plus. Et pour ça, eh ben, il faut écrire un peu ce que nous, en France, on a fait avec notre constitution, c'est-à-dire qu'on modifie ce qui doit être modifié, et dans une démarche intellectuellement honnête. Et puis là, voilà, on met en place un parlement, on met en place les grandes valeurs, et c'est un peu les valeurs d'Évangile. On a déjà quand même pas mal d'écrits qui nous permettent quand même de nous guider un petit peu dans notre position morale et dans cette constitution que cette Église devrait s'employer à écrire. Mais effectivement, il va falloir réformer très sérieusement le fonctionnement de l'institution catholique, parce que elle a développé dans son organisation des dysfonctionnements qu'on peut constater, et dans toutes les procédures canoniques. Voilà. Comment vous expliquer qu'à Lyon, pendant plus de 40 ans, il n'y a jamais eu un procès canonique qui a été déclenché, une enquête canonique qui a été déclenchée, ni par le cardinal Renard, ni par le cardinal de Courtrai, ni par le cardinal Billet, ni par le cardinal Balland, ni par le cardinal Barbarin. Et ça, c'est pas une exception. C'est le cas dans une bonne proportion des affaires de pédophilie. Et effectivement, là, ça ne concerne pas des gens qui sont malades psychiquement, ça concerne des gens qui sont censés justement avoir un discernement plus haut que la moyenne, parce qu'ils se sont interrogés toute leur vie sur ces questions-là. Ouais. Donc effectivement, il y a un gros sujet.
Sœur Véronique Margron, je vous demander de réagir à ce que vous venez d'entendre. Il y a une réforme nécessaire. Il y a des mots que j'entends depuis le début de cette émission. Accompagnement, prévention, réparation. J'entends pas le mot sanction. Je sais que l'Église, c'est le pardon, mais quand même.
Ah non, mais les sanctions, j'ose pas vous dire qu'elles vont de soi, parce que comme elles ne sont pas allées de soi hier... Mais les sanctions, elles vont soit justement quant au droit, c'est-à-dire quant au droit, s'il s'agit de qualification pénale, s'il s'agit de procès canonique, les sanctions. La difficulté des sanctions dans les procès canoniques, c'est que pour l'immense majorité des victimes, et comment ne pas les comprendre, ces sanctions apparaissent dérisoires. Par exemple, quand vous dites à un prêtre, eh bien, tu ne pourras plus célébrer en public. Bon, ben, enfin, pendant tant d'années, pour les personnes victimes, enfin, on peut comprendre que, enfin, pour elles, c'est inaudible tout ça. Donc, la question de comment qualifier les sanctions du point de vue de l'Église, à l'intérieur de l'Église, est une question qui est difficile, hein, qui doit être abordée. Pour reprendre ce que disait François Deveau, ce qui est sûr, c'est que le droit canonique pénal, concernant donc ce dont nous parlons, il doit être réformé. Alors, nous savons que des réformes sont en cours à Rome, sont en cours d'écriture. Nous ne savons pas encore sous quelle modalité. Mais ça, c'est une exigence. Ça ne suffira pas à la prévention, mais c'est une nécessité. De même que de pouvoir, en effet, rééquilibrer l'institution ecclésiale ou ecclésiastique quant à la place de l'autorité ou du pouvoir du prêtre. C'est-à-dire qu'il faut plus d'altérité, il faut plus de circulation des autorités et des responsabilités au sein des diocèses. Par exemple, ça, c'est une nécessité. Plus il y aura d'altérité, plus il y aura d'air, en quelque sorte, plus les plus vulnérables sont protégés. Ça ne sera jamais suffisant, mais plus ils seront protégés.
Christine Pedotti, le rôle du pape là-dedans, du pape François, qui, sur ces questions de pédocriminalité, est en pointe, il est important, c'est lui qui peut faire bouger les choses.
Alors c'est vrai que dans l'Église catholique, le pape a beaucoup de possibilités de faire bouger les choses. Pas tout, hein, il ne peut pas tout. Son administration est une toute petite administration eu égard à la taille de l'Église catholique à travers le monde entier. D'ailleurs, il y a des pays, enfin il y a encore aujourd'hui des tas de pays dans lesquels rien n'a été énoncé. Enfin, il n'y a pas les cas de pédocriminalité. Je pense qu'il va continuer à en surgir partout dans le monde. Mmh. Et puis, il y a une chose que je voudrais quand même rappeler, parce que...
Très vite, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au bout.
On a toujours deux choses dans l'Église. On a, un, des criminels, deux, un système qui les cache. Et c'est ça qu'il faut réformer. Quand on parle tous de la réforme de l'Église, c'est parce qu'il faut réformer le système qui est incapable de faire la lumière sur les cas et qui a fait qu'effectivement à Lyon, 5 cardinaux de suite se sont cachés les yeux.
Merci beaucoup Christine Pedotti, merci également à nos autres interlocuteurs, François Devaux et sœur Véronique Margron d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Vanadis Feuille et Laurent Philippot aujourd'hui. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
La crise sanitaire a mis en pause nos vies. Et même si c'était dur, on a su patienter.